Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la géhenne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce mardi 6 avril 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. L'Iran insiste sur la levée complète des sanctions américaines. Le ministre iranien des Affaires étrangères a rencontré le président ouzbek. Des attaques contre des convois militaires américains en Irak se multiplient. Moscou a averti contre un recours à l'option militaire de l'OTAN. Et le Bénin et le Nigeria veulent mettre en place une zone de libre-échange en vue de dynamiser leur coopération économique. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a rencontré le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev. Les deux hommes ont discuté des relations bilatérales et des questions d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie iranienne brossant un tableau détaillé sur les dernières évolutions liées aux relations Téhéran-Tashkent dans divers domaines politiques, économiques et culturels a fait part de l'intérêt de l'Iran à développer la coopération avec la République d'Ouzbékistan en bénéficiant de vastes potentiels qui existent entre les deux pays. Pour sa part, le président ouzbek a souligné l'importance des relations iran-ouzbek et la nécessité d'élargir la coopération entre les deux pays. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a insisté sur la levée des sanctions américaines et sur la nécessité de remplir les obligations par d'autres signataires du plan global d'action commun de l'accord sur le nucléaire iranien. Saïd Khatibzadeh a déclaré que l'Iran n'acceptait qu'une reprise en une seule étape de l'accord nucléaire de 2015. Il a ajouté que l'objectif de la réunion de Vienne sera également le retour des autres signataires à leurs engagements liés au plan global d'action conjoint. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a également rejeté toute discussion directe ou indirecte avec Washington sur l'accord nucléaire. Ces déclarations du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères sont intervenues à la veille d'une réunion mardi de la commission mixte du plan global d'action conjoint à Vienne. En seulement 2 heures, 3 attaques ont été menées contre les convois transportant du matériel pour les troupes US en Irak. Les sources irakiennes ont fait état de la prise pour cible d'un convoi transportant du matériel logistique pour les troupes américaines opérant à Al-Yousifiya dans la province de Bagdad, au centre de l'Irak. Au cours de ces derniers mois, les convois militaires de la coalition américaine en Irak ont quasi quotidiennement été visés par des explosions de bombes placées en bordure de route. Sans oublier les attaques à la roquette dont la dernière en date a été menée contre la base Ain al-Assad, d'où l'appel de la soi-disant coalition anti-Daesh à des entreprises sécuritaires irakiennes pour se protéger. Suite à l'assassinat lâche et ciblé des 2 hauts commandants de la résistance en janvier de 2020 par un drone US près de l'aéroport de Bagdad, le Parlement irakien a approuvé une loi exigeant le retrait de toutes les forces étrangères déployées en Irak. OTAN, Moscou avertit contre un recours à l'option militaire. Alors que le Pentagone prévoit avec son allié britannique de déployer des missiles à portée intermédiaire, le ministère russe des Affaires étrangères a mis en garde contre un éventuel recours à l'option militaire pour contrer le déploiement des missiles sol-air à courte et moyenne portée. Les projets du Royaume-Uni et des États-Unis de déployer des missiles terrestres à de courte et moyenne portée rendent plus compliquée la prévention d'éventuelles escalades sérieuses, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova. Cité par Sputnik, le ministère russe n'a pas non plus exclu le recours à des mesures militaires en réponse aux menaces de missiles provenant de l'Occident. Au cours des dernières semaines, le Pentagone a fait plusieurs déclarations sur les étapes à suivre pour le déploiement de missiles précédemment interdits par le FNI. Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire désormais au point mort. L'armée britannique a quant à elle rejoint les déclarations et actions ouvertement hostiles et déstabilisantes selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova. Le Bénin et le Nigeria veulent mettre en place une zone de libre-échange en vue de dynamiser leur coopération économique. Les gouvernements béninois et nigérians ont engagé des négociations en vue de la conclusion d'un traité de libre-échange pour promouvoir la mise en place et le respect de nouvelles règles de coopération économique afin de dynamiser des échanges entre les deux pays, révèle un document gouvernemental sur le développement du Bénin. Selon ce même document élaboré par la présidence béninoise et consulté en fait par l'agence chinoise Xinhua, les mesures envisagées pour aboutir à la conclusion de ce traité de libre-échange entre les deux pays comprennent notamment la libre circulation effective des personnes et des biens entre les deux États voisins, la mise au point d'une liste de produits dont l'importation sera réglementé par les deux pays et l'encouragement de partenaires entre les entrepreneurs des deux pays. Outre ces mesures, les dirigeants politiques de ces deux États voisins envisagent également pour la réalisation de leurs ambitions de coopération économique la mise en place d'un conseil bénino-nigérian pour les affaires en vue de l'émergence de co-entreprises dans divers secteurs de l'économie et du développement de marché frontalier, de la délocalisation réciproque des entreprises. Eh bien, chers amis auditeurs, avec cette dernière nouvelle en provenance de l'Afrique qui était portée sur cette volonté du côté du Nigeria et du Bénin de vouloir élargir leur coopération bilatérale dans divers domaines, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. On va vous proposer dans quelques instants notre commentaire politique. Un plan des attentats des ciblés serait en cours au Yémen, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Au Yémen, le neveu de l'ex-président de Yémen, Ali Abdallah Saleh, prépare des liquidations à Tiamat, selon Sana. Le gouvernement du Salut national de Sana a révélé l'existence d'un plan concocté par le chef de force soutenu par les Émirats arabes unis sur la côte occidentale du Yémen pour mener des attentats de liquidation à Tiamat. Sur la côte ouest du Yémen, a rapporté l'agence de presse yéménite Sabah. Le chef de ces forces qui prépare ces attentats est Tariq Saleh, le neveu de l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh. Cette information a été dévoilée par la voix du responsable du renseignement de la 5e zone militaire affiliée au gouvernement de Salut national de Sana'a, le général Riyad Balazi. Selon ce dernier, des membres de la direction du renseignement de la 5e région militaire ont obtenu des documents importants à partir du téléphone d'un proche de Saleh et de ses comploteurs qui tissent des complots contre les chefs de Tiamat qui combattent dans ce rang l'offensive américano-saoudienne sur la côte ouest. Parmi ces documents, il y a un dossier qui indique que Saleh et ses partisans envisagent d'exclure et de marginaliser les habitants de Tiamat, c'est-à-dire les habitants des zones côtières de la mer Rouge, qu'ils ont arnaqués et puis devraient pour les éliminer, par de multiples attentats de liquidation, précise-t-il. Belazi a précisé que les opérations de liquidation ont eu lieu et se déroulent selon des plans dangereux, en dressant une liste de ceux dont ils veulent s'en débarrasser et aux mains de gens ordinaires de Tiamat. Selon lui, le dossier rapporte que les clauses de leur mort arguées sont qu'ils ont péri dans des accidents de la circulation ou des assassinats d'origine inconnue. En tête de cette liste de liquidation figure, d'après ce document, le général de brigade Ahmed Al-Kabani et un groupe d'éléments qui lui sont fidèles. Belazi a annoncé que tous les détails seront révélé dans les prochains jours après avoir mis en garde des cibles concernées avant que Tariq Afash ou Tariq Saleh ne procède à leur liquidation. Et ce qui devrait contribuer à ce qu'ils se démarquent de l'agression de ses mercenaires et de ses collaborateurs et qu'ils retournent dans le giron de la patrie, a-t-il souligné. À la fin du mois de janvier dernier, un combattant de bataillon de 50 membres des forces de Tahrir Salik ont fait défection et rejoint les forces gouvernementales de Sanaa avec tous leurs équipements militaires.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Vendredi 2 avril, la 18e réunion de la commission mixte du plan global d'action conjoint s'est tenue virtuellement. Lors de la réunion, les membres de l'accord nucléaire international ont dénoncé une nouvelle fois les dimensions catastrophiques du retrait américain de l'accord et ont insisté en effet sur la nécessité de préserver l'accord. Les parties présentes à cette réunion ont convenu de reprendre les négociations de la commission mixte du PGAC, plan global d'action conjoint, mardi, demain, pour déterminer les mesures censées en effet sauver l'accord. Ces évolutions interviennent au moment où la République islamique d'Iran a exclu toute négociation directe ou indirecte avec les États-Unis, comme d'ailleurs le laissent en effet entendre les responsables américains, et ont souligné que les États-Unis n'avaient qu'à réintégrer l'accord en respectant pleinement leurs engagements et en levant surtout toutes les sanctions imposées à la nation iranienne. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette réunion, sur en effet les négociations qui devraient avoir lieu demain dans le cadre de la commission mixte du PGAC, et sur le positionnement de part et d'autre au moment où les États-Unis, en effet, ont annoncé vouloir retourner à l'accord de Vienne. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé samedi soir qu'il avait contacté son homologue français, lui conseillant de prendre une position constructive à l'égard du PGAC, Plan Global d'Action Conjoint. Aujourd'hui, lors d'un entretien téléphonique avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, je lui ai demandé de faire preuve d'une position constructive à l'égard du PGAC lors d'une prochaine réunion à Vienne, a tweeté le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. J'ai exhorté la France à respecter ses obligations au titre de cet accord et à suspendre l'application des sanctions illégales imposées par les États-Unis. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré pour sa part qu'il s'était entretenu au téléphone avec son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif. « Je me suis entretenu avec mon homologue iranien. J'ai salué la reprise à venir à Vienne de discussions sur le dossier nucléaire. J'ai souligné le rôle constructif joué par le trio européen afin de parvenir à la reprise de telles discussions dans la continuité des efforts déterminants conduits par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni pour préserver le PGAC depuis 2017 », a déclaré le patron de la diplomatie française. À l'issue d'une réunion virtuelle avec les autres parties du PGAC, le ministre iranien des Affaires étrangères a écrit dans un rapport sur Twitter « Lors de la réunion virtuelle de la commission mixte Iran-Union européenne, trois pays européens, France, Allemagne, Royaume-Uni, ainsi que la Chine et la Russie ont convenu de reprendre les discussions en personne à Vienne mardi prochain. » Objectif, finaliser rapidement la levée des sanctions et les mesures nucléaires pour la suppression chorégraphiée de toutes les sanctions, suivie par l'Iran de cesser les mesures coercitives. Le département d'État américain a également annoncé qu'il participerait à une réunion mardi prochain à Vienne, en Autriche, pour discuter d'un retour bilatéral à l'accord nucléaire.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Toulouse Monsieur le professeur Pierre d'Ortiguier, philosophe et politologue. Et depuis Bruxelles, M. Xavier Dupré, analyste politique. M. Dupré, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Vous, bonjour.
Monsieur Dupré, alors de nouveau, l'accord international sur le nucléaire iranien est revenu au devant de la scène internationale, de l'actualité internationale. Il y a eu vendredi une réunion virtuelle et demain, en effet, les consultations, les négociations vont reprendre à Vienne dans le cadre de la commission mixte du plan global d'action conjoint. Qu'est-ce qu'il faudrait attendre, M. Dupré, de cette réunion et des négociations qui vont avoir lieu?
Alors tout d'abord, sur le rythme des négociations et sur les mesures qui pourraient être prises, je crois qu'il ne faut pas s'attendre à une levée immédiate des sanctions. Du côté de la presse anglo-saxonne et des Américains, je lis ici dans la revue The Hill, this is an important though preliminary step. Donc on est vraiment dans quelque chose qui va être rythmé. Il y aura toujours de la part des Américains la tendance à vouloir obtenir quelque chose en échange de levée partielle de sanctions. Donc on est vraiment dans du préliminaire et du progressif. Cependant, je pense que l'on peut s'attendre à des retombées positives de ce retour au premier plan des accords de 2015 dans la mesure où les Occidentaux ont été placés le dos au mur par les Iraniens. Ce retour des accords de 2015, cette volonté d'en revenir aux accords de 2015 fait suite aux accords de coopération structurelle très profonds et de très long terme qui ont été conclus entre la République islamique d'Iran et la République populaire de Chine. Les Occidentaux, aujourd'hui, ne peuvent plus... Le discours n'est plus le même chez les Américains. Ils savent qu'ils doivent revenir à terme et assez rapidement dans l'orbite des accords de 2015, sous peine d'être complètement déclassé par la Chine au prochain Moyen-Orient. Je m'en entretenais en parlant des aspects économiques de cet accord avec l'un de vos collègues, et je lui disais à quel point toute la presse économique occidentale parlait d'un accord historique entre l'Iran et la Chine. Donc, j'ai presque envie de vous dire qu'à très court terme, en fait, l'élément positif, c'est que les négociations ont repris. Les États-Unis ne veulent plus de rapprochement informel, ne veulent plus étendre la portée des accords. Ils veulent s'en tenir aux accords, disent-ils. Ça, c'est à court terme. Mais à moyen terme, les États-Unis n'auront sans doute plus vu l'attitude cohérente et ferme de l'Iran, n'auront plus d'autre choix que de revenir aux accords. D'où l'importance de répéter aux États-Unis que le retour des accords ne dépend d'abord et fondamentalement de lever ces sanctions qui ont été imposées non seulement unilatéralement, mais de manière complètement injuste à la République islamique d'Iran. Et de ce point de vue, ce qui se produit aujourd'hui, c'est simplement la chose suivante, c'est-à-dire que les Américains envoient l'Europe occidentale, hein, l'Union européenne, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, quelque part comme intermédiaires, parce qu'ils savent que la Chine est là, que d'autres accords, d'autres partenaires peuvent demain leur damer le pion dans le Golfe Persique et dans la région du prochain Moyen-Orient. Mais là, vraiment, il faut... Donc, on peut s'attendre, en tout cas, dans les mois qui viennent, à des levées de sanctions progressives et partielles, parce que les États-Unis sont, comme je le disais tout à l'heure, le dos au mur. C'est une réussite de la diplomatie iranienne.
Merci infiniment pour ces éclairages. Monsieur Dupré, restez avec nous. On va tout de suite se rendre à Toulouse pour rejoindre Monsieur le professeur Pierre d'Ortiguier, philosophe et politologue français. Monsieur le professeur, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Monsieur d'Ortiguier, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends, Monsieur Codamandé.
Très bien,
oui.
Très bien. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, Monsieur d'Ortiguier.
Avec grand plaisir.
Monsieur d'Ortiguier, Monsieur Dupré a expliqué justement ce qu'il faudrait attendre de cette réunion prévue demain entre les membres de la commission mixte du plan global d'action conjoint, accord nucléaire. Et pour vous, quelles seront les retombées à court et à moyen terme de cette reprise des négociations, tout en sachant que les États-Unis, bien entendu, ont déclaré vouloir participer à cette réunion, ont laissé entendre qu'il fallait de nouveaux pourparlers avec la République islamique d'Iran, bien sûr des pourparlers qui sont exclus par Téhéran, tout en sachant que, bien sûr, c'est le signe de l'échec de la stratégie de pression maximale de l'administration Trump. Donc, tout cela étant dit, alors quelles seront les retombées, justement, à court et à moyen terme de cette reprise des négociations sur le nucléaire iranien, sur l'accord en effet nucléaire prévu demain à Vienne, Monsieur le professeur?
Eh bien, tout est question. Je me permets de répondre en saluant la présence de M. Dupré. Je dirais que cette reprise des négociations, en réalité, ne repose pas sur une franchise. Elle est en effet formellement, elle est un pas important. Elle est, disons, évidemment un échec, peut-on dire, de la pression maximale dont vous parlez. Mais je note que l'attitude des États-Unis, comme celle d'ailleurs des Européens, consiste à dire qu'en principe, ils sont pour une reprise des négociations, mais qu'en réalité, ils veulent que l'Iran ouvre davantage le champ des négociations pour y inclure justement la permanence d'une observation, d'une pression exercée sur lui, comme si on devait le traiter comme un État mineur. C'est-à-dire qu'il reste toujours un suspect, voyez-vous, qui doit rendre des comptes et par là même, diminuer sa propre autorité à l'intérieur du pays. Voilà comment je verrais, disons, l'atmosphère. Cette atmosphère, disons, elle n'est pas saine de point de vue politique, elle n'est pas saine, je dirais, purement et simplement. Et Monsieur Macron, enfin, je cite notre président, mais c'est le cas également de l'Union européenne, veulent toujours obtenir de l'Iran des concessions, mais pas des concessions sur le plan de l'armement atomique, mais sur sa production. Voyez-vous, sa production atomique pacifique. Et donc, en réalité, l'enrayer, c'est cela qui est à observer. Je dirais du reste que, même sous l'ancien régime du Shah, il faut bien le dire, hein, il y avait des méfiances exercées par les États-Unis. Je prends l'exemple de la presse, je crois que c'était le New York Times, ou le New York Tribune à l'époque, je crois que c'était le New York Times, oui, qui lui-même s'était prononcé contre les projets atomiques de l'État iranien. Alors, ceci donc est une permanence qui n'a rien à voir, qui est, si je puis dire, au-delà des régimes politiques, mais qui touche, disons, le développement de l'Iran. C'est une sorte d'atmosphère, à mon avis, qui n'est pas du tout claire, atmosphère qui est malsaine, et je dirais que je ne crois pas pour ma part que ces bonnes intentions de la part des Occidentaux, pour donner un titre générique, hein, puissent aboutir, parce qu'il y a trop de forces qui ont intérêt, disons, à présenter cette situation de négociation comme étant toujours au bord de l'échec. C'est-à-dire, on annonce, voyez-vous, et ensuite, cet échec est mis sur le compte de l'Iran. Donc, il s'agit là d'une pression, disons, d'une sorte de persécution, si je puis me permettre le mot, et qui devrait aboutir certainement un jour à des positions beaucoup plus énergiques de l'Iran, et certainement venant aussi de la Russie, de la Chine, peut-être, disons. Mais de la part des Occidentaux, je n'ai pas de confiance, disons, dans la sincérité des intentions.
Merci pour ces précisions, Monsieur le professeur. Monsieur Dupré, alors les États-Unis ont quitté, se sont retirés de l'accord nucléaire de façon unilatérale et illégale en 2018. Hein, et s'il y a en effet une volonté de la part des Américains de respecter leurs engagements. Pourquoi ils souhaitent, ils exigent en effet des négociations avec la République islamique d'Iran? Et puis, alors, sur quoi les Américains voudraient aujourd'hui négocier sur un accord nucléaire qui, pour la République islamique d'Iran, est, en effet, n'est pas négociable, d'autant plus que cet accord a été, en effet, confirmé, approuvé, validé par le Conseil, par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU.
Alors, je crois qu'il faut comprendre, mais c'est vrai que la position américaine n'est pas claire, je suis d'accord avec le professeur Dortiguier. Et il faut se rendre compte que, globalement, vous êtes ici dans une configuration où les démocrates étant de retour au pouvoir, ils tentent une percée pour obtenir quelque chose de la part de l'Iran, en, passez-moi l'expression, mais en tordant le sens des négociations et des accords. Mais on sait tous que si des républicains, et peut-être singulièrement si Donald Trump était à nouveau président d'ici 4 ans, on serait à nouveau de retour dans un schéma de fonction. Bon, ça c'est très clair. Dans ce contexte-là, on voit bien que les Américains veulent obtenir une négociation en face à face, bilatérale, pour effectivement élargir les termes du PGAC, l'accord de 2015, notamment aux activités balistiques de l'Iran, à son soutien à divers mouvements de libération dans la région. Ça, ça se sent très fort. Maintenant, le fait d'avoir refusé de la part de l'Iran des négociations indirectes il y a quelques mois, donc tout à fait informelles, et d'entrer dans un schéma où il y a quand même deux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU qui sont garants de l'accord de sa portée, c'est-à-dire la Russie et la Chine, cela permet en tout cas d'augurer que les Américains n'obtiendront pas tout ce qu'ils voudront et qu'il y a aujourd'hui un début de structuration de la communauté internationale pour éviter d'aller, que les États-Unis n'aillent trop loin. Je répète aussi que les États-Unis, je me rappelle de documents qui avaient été écrits en 2001, pointaient déjà la Chine comme étant le peer competitor, leur père qui leur fera concurrence. Donc ils ont une vision de très long terme des relations internationales. Ils savent que s'ils tardent trop, ou que s'ils faisaient trop de difficultés, ils seraient vraiment remplacés dans la région, en tout cas en grande partie, dans une bonne partie de la région. L'Iran est quand même un poids lourd, incontournable au Proche-Moyen-Orient. Ils seraient remplacés par les Russes et les Chinois. Ils perdraient énormément d'influence de la région. Donc je pense que globalement, les États-Unis sont dans une phase de négociation où ils tentent, pour premier mouvement, d'essayer de maximiser leur avantage. Un peu comme le joueur qui aux cartes bluffe parce qu'il sait qu'il n'a pas vraiment de très bonnes cartes dans son jeu et qu'à un moment donné, il va devoir abandonner une partie de ses prétentions. C'est typique, c'est la théorie des jeux. C'est assez mathématique quand on n'a pas beaucoup de jeux en main mais qu'on avait un avantage auparavant lors d'un tour précédent, eh bien, on bluffe pour tenter d'obtenir quelque chose. Et si en face de soi, et ça a été le cas jusqu'à présent, il n'y a pas de raison que ça change, on a en face de soi un partenaire qui est cohérent, qui connaît son jeu et qui est ferme, ce qui a toujours été le cas de la République islamique d'Iran jusqu'à présent et de sa diplomatie, en règle générale, ce mouvement de bluff finit par se dégonfler. Maintenant, sur le très très long terme, l'avenir de l'Iran ne passera sans doute plus aussi de manière aussi décisive par ce que l'on appelle de manière générique les Occidentaux. Il suffirait, je le répète, que les Républicains gagnent les prochaines élections présidentielles pour qu'une fois de plus, tout soit remis en cause. Les États-Unis font dépendre de leur situation politique intérieure un grand nombre de partenaires internationaux et il est clair que cela crée un climat malsain, instaure un climat malsain dans les relations avec ce pays. Ça, c'est une évidence.
Merci encore, M. Dupré. M. Dortiguier, donc, face à l'attitude cohérente et ferme de la République islamique d'Iran, comme l'a rappelé M. Dupré,
oui.
Les Américains sont en quelque sorte au pied du mur. Donc ils veulent participer à ces négociations sur le nucléaire iranien pour pouvoir obtenir quelque chose. Qu'est-ce qu'ils chercheraient à obtenir par le biais de ces négociations? Une première question et une seconde, quel rôle veulent ou peuvent jouer les Européens, en l'occurrence la France, dans l'état actuel des choses?
Ce que les États-Unis cherchent à obtenir, et des puissances, disons, qui sont actives à l'intérieur des États-Unis, c'était la même chose, bien sûr, poussent l'administration à obtenir, c'est de contrôler l'armement de l'Iran, le mesurer, le paralyser, en fait, que ce soit comme l'a rappelé M. Dupré dans l'armement balistique et autres, et ceci pour des buts qui sont tout à fait particuliers, ceux de la défense de l'entité sioniste. Je ne vois pas la diminution, bien sûr, de l'influence, de la diminution de la résistance qui est opposée en Syrie, etc. Et au Liban. Je crois que c'est un point que les États-Unis, veulent obtenir. Enfin, c'est un point qui leur est, demandé, par des forces financières et autres qui les dirigent, qui ont réussi, dans le jeu politique américain à se rendre, nécessaire à chacune des factions. Voilà, pour dire les choses clairement. C'est en effet, c'est un point de vue c'est réaliste, mais c'est comme l'a dit M. Dupré avec l'image du bluff des cartes, ceci marche contre le temps. Parce que l'Iran n'est pas comme autrefois isolé. L'Iran, était aspiré, si je puis dire, par le développement économique, financier, etc., de cette région de l'Orient, ce qu'on appelle la route de la soie ou autre. Mais j'entends parler des pays turcs, par exemple, des turkmènes et autres. Tout ceci, bien sûr, modifie cette stratégie américaine. Et donc, je crois que celle-ci est, il faut le reconnaître, est bornée dans le temps. Quant aux Occidentaux, malheureusement, nous avons la France, par exemple, qui autrefois était l'expression politique libre de l'Europe, puisque l'Allemagne, depuis la fin de la guerre, chacun, et c'est une évidence, n'a pas d'indépendance politique, est obligée de suivre. C'est un géant économique, comme on dit, et un nain politique. Ce n'est pas caricatural, je crois que c'est une formule constante, Et alors, la France, malheureusement, a une faiblesse économique financière qui s'accroît avec ces questions de sanitaire et autres. Enfin, qu'il ne lui permet plus aujourd'hui de parler, de façon relativement indépendante, comme cela avait été le cas avec nos anciennes présidences, Et alors là, c'est pour ça que nous voyons, au contraire, malheureusement, un déclin de l'Europe dans ce domaine-là, et certainement, peut-être, une sorte de, je n'ose pas dire de rapprochement, mais ce qui gênerait beaucoup la France serait un rapprochement de fait, entre la Russie, les pays de l'Est et ces pays de l'Est européens, entre la zone allemande et la zone russe, pour dire les choses en deux mots. Et je crois que là-dessus, la France est de moins en moins dans la capacité, de jouer le rôle européen qu'elle avait jusqu'à présent. Ce rôle, voyez-vous, d'orateur indépendant, si je peux dire, C'était limité, du reste, mais enfin, nous l'avions quand même de façon nette. Mais même si ce n'était pas, même si c'était fragile, nous avons des retours en arrière et autres. Mais je crois que l'Iran est amené, c'est ma conclusion, à compter sur les appuis, chinois et les appuis russes. Bien sûr, on peut le regretter, mais ça, c'est... L'Europe, voyez-vous, est absente depuis la fin du second conflit mondial, et donc nous en payons les conséquences.
Monsieur le professeur Pierre Dortillet, philosophe et politologue français depuis Toulouse, Xavier Dupré, analyste politique depuis Bruxelles, je vous remercie infiniment d'avoir voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci, monsieur. Merci.
Voilà. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Ici, le Moyen-Orient.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. L'Iran n'entame pas de négociations directes ou indirectes avec les États-Unis. Nos entretiens avec le groupe 4 plus 1 à Vienne au sujet de la levée des sanctions et des actions que les Américains doivent prendre en premier et la vérification de leurs actions sont purement techniques, a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères. Abbas Araghchi a déclaré « Ce que nous poursuivons à Vienne au dessein de la commission mixte du plan global d'action conjoint est basé sur les positions précises de la République islamique d'Iran » répété à plusieurs reprises par le guide suprême de la révolution islamique et par les responsables du pays. Nous n'avons pas de négociations directes ou indirectes avec les Américains à Vienne. Nous négocierons avec la commission mixte et les pays en fait du groupe 4 plus 1 et annoncerons notre demande et nos conditions pour revenir au plein respect des engagements dans le cadre du plan global d'action conjoint. Nous exigeons que les États-Unis remplissent d'abord toutes leurs obligations et suppriment toutes les sanctions qu'ils ont imposées, et puis nous ferons vraiment des vérifications et reviendrons sur nos engagements suspendus partiellement suite au retrait américain de l'accord nucléaire en 2018 à ajouté le vice-ministre iranien des Affaires étrangères. Nous n'avons pas de plan pas à pas ou de proposition pas à pas. Nous n'acceptons pas qu'il y ait une étape de plus. À notre avis, il n'y a qu'un seul pas à prendre par les États-Unis. Les Américains doivent lever toutes les sanctions imposées après le départ de Trump ou les sanctions imposées récemment où les sanctions dont l'étiquette a été changée. Celles-ci doivent être identifiées et levées par les États-Unis. Ensuite, nous allons vraiment vérifier les actions des Américains et revenons comme avant à nos engagements à préciser. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Le gouverneur de la Banque centrale iranienne, Abdel Nasser Hemmati, insistant sur l'impératif des approches équitables dans la lutte contre la pandémie mortelle du nouveau coronavirus, loin de toute pression politique sur la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, a appelé à élargir la coopération internationale dans le domaine du transfert de connaissances techniques sur les vaccins, de la production des vaccins, de sa juste distribution et des aides financières pour les pays à faible revenu. Selon le rapport du lundi 5 avril de l'IRNA, depuis les relations publiques de la Banque centrale iranienne, Abdel Nasser Hemmati, gouverneur de la Banque centrale iranienne, a tenu ses déclarations à l'occasion d'une réunion du groupe 24 présidée par lui. Était présent au rendez-vous la directrice du Fonds monétaire international, le gouverneur de la Banque mondiale et les chefs des banques centrales et des ministres des pays membres. Lors de cette réunion, M. Hemmati s'est attardé sur les signes de reprise économique mondiale pour dire aujourd'hui Claudie. Près d'un an après le début de la pandémie du Covid-19, nous nous sommes réunis et nous assistons au premier signe de reprise économique mondiale. Bien que beaucoup s'inquiètent du long processus de reprise, mais l'amélioration de l'accès aux vaccins serait efficace pour accélérer la reprise économique dans le pays, a-t-il souligné. Yémen, une progression des mercenaires saoudiens repoussés. Les forces de Sanaa ont avorté de dimanche 4 avril une offensive d'envergure des mercenaires de la coalition d'agression saoudienne sur le front Embris à Zalé, situé dans le sud du pays. La tentative de progression des mercenaires avortée par le combattant de l'armée d'Ansar Allah a duré 5 heures. Une source militaire citée par la télévision yéménite Al-Masira a fait état de plusieurs tués et blessés parmi les mercenaires qui ont abandonné leurs équipements militaires sur le champ de bataille. Les forces de Sanaa ont en outre mené une attaque contre les positions des mercenaires sur le front des mercenaires à Najran, situé dans le nord du pays. Et par ailleurs, une femme et un homme sont tombés en martyrs et 11 autres civils blessés suite à un bombardement saoudien contre le district frontalier de Menbeh à Sada. Il convient de rappeler que l'aviation saoudienne mène quotidiennement des raids contre les régions frontalières yéménites et ce depuis le début de son agression militaire contre le Yémen en mars 2015. Le ministère syrien des Affaires étrangères a affirmé que le rapport annuel du département d'État américain sur l'état des droits de l'homme dans le monde inclut des mensonges abordant des violations présumées, précisant que les allégations dans le rapport sur la Syrie sont prises des rapports des réseaux terroristes et de leurs commanditaires dans la région et le monde. Dans un communiqué, le ministère syrien des Affaires étrangères a précisé, le département d'État américain a publié de son rapport annuel sur l'état des droits de l'homme dans le monde et comme d'habitude, il inclut des mensonges et des allégations abordant des violations présumées dans à peu près de tous les pays du monde et reflète un racisme et une intervention dans les affaires intérieures des pays qui n'ont pas de relation vassale avec l'administration américaine et les auteurs du rapport. Le ministère a précisé que les allégations incluses dans le rapport sur la Syrie avaient été prises des rapports des réseaux terroristes et de leurs commanditaires dans la région et le monde. Le ministère syrien des Affaires étrangères a indiqué que les allégations lancées par l'administration américaine qu'elle accorde la priorité aux droits de l'homme dans sa politique extérieure constitue l'apogée de l'hypocrisie puisque le peuple des Syriens souffre dans sa nourriture, santé, environnement et dans tous les autres côtés de la vie à cause de l'embargo inhumain visant à affamer et à appauvrir le peuple syrien. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a usé de son pouvoir de façon illégitime, a déclaré lundi 5 avril la procureure à la reprise du procès pour corruption de Benjamin Netanyahou au moment même où débutent des consultations pour sélection déterminante pour son avenir politique. Benjamin Netanyahou est accusé de corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires. Il a usé de façon illégitime du grand pouvoir gouvernemental qui lui est conféré, entre autres, pour demander et obtenir des avantages injustifiés de propriétaires
de médias importants en Israël pour faire avancer de ses affaires personnelles, notamment quand il voulait se faire réélire, a affirmé la procureure principale Liat Ben-Ari. Menteur, on veille sur la démocratie, pouvait-on lire aux abords du tribunal sur des pancartes de manifestants qui réclament depuis des mois sa démission en se réunissant devant sa résidence chaque samedi. Eh bien, chers amis, c'est touché à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Thank you.